bonsoir, heureux de vous accueillir sur le plateau des informés de France Info pour débattre de l'actualité ce dimanche soir. France Info, la radio, France Info, la télévision, le canal 27 de la TNT, France Info, les réseaux sociaux et bien sûr franceinfo.fr. Alors nos informés sont ce soir Anne-Bénédicte Hoffner, bonsoir. Journaliste au quotidien La Croix, notre partenaire de ces informés de France Info. Vous co-signez un reportage intitulé « Vivre près d'une mosquée salafiste ». C'est à paraître demain, on en parlera dans ces informés. À vos côtés, Laurent Mauduit. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Pierre.
Co-fondateur du site Mediapart. Vous publiez un livre rouge, la couleur est rouge de ce livre. Il y a un livre intitulé « La caste, enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir ». C'est aux éditions La Découverte. Bonsoir Judith Vintraube.
Bonsoir Pierre.
Journaliste politique au Figaro Magazine. Bonsoir également, Daïk Audoui, journaliste politique à France Télévisions, France Info, Canal 27 de la TNT.
Bonsoir à tous.
Au sommaire de ces informés, le remaniement, il paraît que c'est pour bientôt. Patience, dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, que nous entendrons. C'est Emmanuel Macron qui a créé cette crise, lui répond Jean-Luc Mélenchon. Ministre ou pas, l'État avance grâce à son administration qui gouverne, quelle que soit la couleur politique. Une caste, une oligarchie, écrivez-vous, Laurent Mauduit, dans votre petit livre rouge, on en parlera. Dans ces informés du dimanche, on parlera de la droite, de Laurent Wauquiez, qui peut à présent s'appuyer sur un ancrage local à sa main. Mais ça n'est pas pour autant que les Républicains adhèrent à 100% à la doctrine, au discours du chef. Et puis on parlera de la place de l'islam dans notre société au travers de votre reportage. Anne-Bénédicte Hoffner, le chef de l'État promet un cadre et des règles pour l'islam de France, discours et textes qui se font toujours attendre. Et tout d'abord, dans ces informés, première réaction à cette élection en Bavière, vous venez de l'entendre, la CSU qui est au pouvoir dans ce land depuis 1950 est en tête à la sortie des urnes, 35,5%, mais n'aura pas la majorité absolue. Les Verts, 18,5%, l'AFD, le parti d'extrême droite, 11%. Que penser de ce résultat sorti des urnes, Judith Vintraube?
Ce qui est frappant, c'est que la CSU avait une figure nationale qui est Horst Seehofer, qui se distinguait par son discours très dur sur les migrants et très critique vis-à-vis de Angela Merkel. Il y avait même eu un bras de fer entre eux pour savoir ce qu'on faisait des gens qui n'étaient pas régularisés. Finalement, son discours ferme ne lui a pas profité puisque l'Alternative für Deutschland fait un très bon score, entre pour la première fois. La surprise, ce sont les Verts.
18,5% selon ces sondages sortis des urnes.
Deuxième position avec un discours assez local en fait. Ce sont des Verts particuliers qui sont au moins sur la préservation de l'environnement. C'est pas des Verts ultra politiques comme les nôtres là-bas. Ils sont plutôt sur le paysage, les particularités bavaroises.
Laurent Mauduit, on rappelle que la Bavière c'est une région riche, un land riche qui connaît peu de chômage par rapport au reste de l'Allemagne. Et ce qui se passe dans ce land va mettre en position inconfortable Angela Merkel, la CSU qui est alliée avec la CDU.
Moi, je trouve que s'il y a de frappant, la leçon qu'on en tire est une leçon qui vaut aussi pour nous. On connaît le scénario. Dès lors que des partis républicains miment des thématiques de la droite radicale, de l'extrême droite, qui ne sont pas républicains, à chaque fois les électeurs préfèrent l'original à la copie. Ça, c'est la première leçon pour la CSU, qui est terrible, hein, parce que ça met Merkel en difficulté. Et puis il y a l'autre leçon aussi, c'est pour le SPD, hein, le Parti Socialiste Allemand, qui n'est pas dans l'état de liquéfaction du Parti Socialiste, en voie de disparition, mais qui tout de même, pris dans cette grande coalition, a disparu politiquement. Et donc, du coup, l'une des leçons de ce scrutin, c'est aussi le revers majeur pour le SPD.
On voit qu'on se rappelle que l'an dernier, il n'y a pas si longtemps, Angela Merkel a eu bien du mal à constituer un gouvernement de coalition, 6 mois de négociations. Ce qui se passe aujourd'hui en Bavière, ça va affaiblir la chancelière dans son pays?
Ça dépend, parce que si on considère que la chute de la CSU, c'est parce qu'un électorat centriste n'a pas suivi le patron de la CSU bavaroise pour se reporter chez les Verts, ça conforte plutôt ses positions. Pas forcément sa stratégie d'alliance, mais au moins ses positions par rapport à l'accueil des migrants. Mais il faut se méfier de cette interprétation qui a été faite, parce qu'on voit aussi que les Free Wailers, qui sont donc des dissidents de la CSU, qui sont conservateurs, ont fait 11%. C'est exactement le nombre de points qui manquent à la CSU par rapport au suffrage précédent.
Donc faut... Peut-être des alliances. Voilà. C'est ce qu'il faut compter. Anne-Bénédicte Hoffner, votre regard sur ce qui se passe ce soir en Bavière.
Alors, effectivement, moi, je trouve aussi que c'est un scrutin à regarder avec attention et qui fait peur. Enfin, quand on voit les discours, les manifestations de l'AFD, les slogans, on peut se dire que voilà que cette tendance qui s'installe dans le paysage et pas que en Allemagne, en réaction. Au moins, enfin, politiquement ou dans le message à l'arrivée de migrants, est extrêmement préoccupante et elle montre la nécessité d'une mobilisation politique forte.
Parce que le message durant toute cette campagne, eh bien, ça a été contre cette vague migratoire. C'est le message qui a été employé.
Et un aspect terrible, c'est que pas seulement en Allemagne, dans toute l'Europe, on voit que la stratégie du bouc émissaire qui est promulguée par l'extrême droite, eh bien, beaucoup de partis républicains, pas seulement des partis républicains, aussi de gauche, aussi même, on l'a vu en Allemagne, d'extrême gauche, puisque l'une des figures de Die Linke a embrassé une thématique anti-immigrants. Hein, ça a été un électrochoc au sein du parti de Scalafontaine, qui était quand même une figure historique dans la gauche allemande. Et donc, du coup, c'est un ébranlement, je trouve.
On va suivre ça sur l'antenne de France Info ce soir au fur et à mesure que l'on connaîtra les résultats de ces élections en Bavière. On va parler dans un instant du remaniement de la politique en France, chez nous. Avant cela, à 20h10, l'essentiel de l'info, c'est avec vous Emmanuel Grabé.
La Fondation Abbé Pierre et le SAMU Social saluent sur France Info la décision de la mairie de Paris. Elle va accueillir cet hiver 50 femmes sans abri. Elle va ouvrir 2 salles pour cela, le double en cas de grand froid. Anne Hidalgo appelle les maires d'arrondissement à faire la même chose. La mairie du 4e et du 5e arrondissement lui ont déjà emboîté le pas. L'ENA va devoir faire des économies. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère des Comptes Publics. Il reconnaît une fragilité financière de cette école qui forme pourtant les hauts fonctionnaires de la Cour des Comptes et les inspecteurs des finances. Communiqué publié après un article du Parisien qui révèle que le déficit de l'école atteint l'an passé près de 3 milliards d'euros. Une autopsie va être pratiquée dans les jours qui viennent pour déterminer les causes de la mort d'une enfant de 11 ans. C'est le parquet de l'Aude qui l'annonce. La fillette a été découverte chez elle à Castelnaudary. 2 personnes sont en garde à vue, mais le parquet ne donne pas pour l'instant leur identité. Toujours plusieurs dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. Au Portugal, les conséquences de l'ouragan Leslie, il a soufflé jusqu'à près de 180 km/h sur la région de Coimbra, au centre du pays. Il a provoqué de gros dégâts et blessé légèrement 28 personnes. Et puis Toulon, déjà malmené en top 14, ne brille pas non plus en Coupe d'Europe. Défaite ce soir au Stade Mayol, on parle de rugby. 26-25, c'était face aux Anglais de Newcastle. Un peu plus tôt, Castres est allé perdre à Gloucester 19-14 et Lyon s'est incliné à domicile 30-21 face à Cardiff.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Avant de parler du remaniement, j'aimerais soumettre à votre réflexion cette petite phrase. Elle est signée François Hollande et était l'invité aujourd'hui des rendez-vous de l'histoire. C'est organisé à Blois depuis 1998 et l'ancien président de la République a fait ce commentaire, je cite, « La conception de la présidence de la République qui a été la mienne était la présidence normale. Ce concept a été regardé de manière critique. Je n'aurais pas dû dire « président normal ». Dave Codui, que pensez-vous de cette petite phrase de François Hollande?
Pas grand-chose de cette petite phrase. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la suite, Pierre.
Vous voulez tout de suite passer
à la
suite?
Ah bah oui, parce que c'est la suite. Il faut lire dans l'ensemble, parce qu'il dit ensuite « mais j'aurais préféré parler de présidence
humaine,
moins hautaine ». Et là, on voit qu'il fait un mea culpa sur lui-même, sur la présidence normale, mais c'est pour mieux désinguer Macron, comme il le fait régulièrement à chacune de ses sorties, en rajoutant l'adjectif « humain ».
Moi, je trouve ça pitoyable. Il a amené le pays dans le mur. Il a tué un parti, le sien, qui était l'un des plus vieux partis français. Je trouve que, voilà, monsieur Petite Blague est encore là. Je pense qu'il serait temps qu'on tourne la page.
Bon, allez, on va tourner la page. On va parler du remaniement. Je vous écoute. Je mène le débat, mais je vous écoute aussi. Le remaniement qui se fait attendre. Une chose est sûre, on sait aujourd'hui que François Bayrou ne sera pas ministre. Hein. Il l'a dit à la mi-journée sur l'antenne d'RTL, le président du Modem. Et dans l'émission politique de France Info, France Inter, avec la collaboration du journal Le Monde, ce midi, eh bien, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a justifié cette longue séquence. On l'écoute.
Vous savez, moi, je suis ancienne DRH.
Oui.
Et quand on choisit quelqu'un pour une équipe à haute responsabilité, on prend le temps de choisir la personne, mais aussi de choisir la personne dans une équipe.
Alors, Judith Vintraube, prendre le temps, que retenir de ces 2 semaines ?
Vous dites 2 semaines, mais en fait, rappelez-vous, Gérard Collomb avait annoncé son intention de quitter le gouvernement pour préparer les municipales, mais il voulait le faire juste après les européennes. Il l'avait annoncé le 18 septembre à l'Express, je crois. Donc ça veut dire que ça fait un sacré bout de temps qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe aurait dû réfléchir à la nouvelle configuration du gouvernement. Emmanuel Macron a péché par orgueil. Il a pensé que son pouvoir de séduction, son pouvoir de persuasion était tellement irrésistible que Gérard Collomb finirait par abandonner cette idée. Il a eu tort, puisque Gérard Collomb lui-même est revenu à la charge. Donc on sentait bien que c'était un message que le président de la République refusait d'entendre pour que Gérard Collomb ait dû lui dire de l'extérieur, en prenant un porte-voix médiatique. Ça pose le problème de la capacité d'Emmanuel Macron à écouter ce qu'on lui dit. Or, on a des témoignages concordants. Dans Le Parisien, par exemple, ce matin, il y a même un papier sur les états d'âme de Brigitte Macron qui se désespère de voir son mari aussi imperméable à toute critique, aussi incapable d'écouter ses contradicteurs ou même d'écouter ses amis. Enfin, je finis juste par là parce que Jean-Pierre Raffarin, qui n'est pas connu quand même pour être très agressif vis-à-vis d'Emmanuel Macron, lui a dit il y a plusieurs jours déjà, il faut en finir avec le tout en marche. Témoignez de la considération à vos alliés, bâtissez vraiment une famille élargie et on verra. Avec le remaniement, c'est un des enjeux. Ouais. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de ça ?
Alors cette séquence, en tous les cas, donne du grain à moudre à l'opposition, par exemple au député des Bouches-du-Rhône, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il était ce matin l'invité de l'émission politique d'Europe 1 et CNews. Écoutez, il n'est pas tendre avec le chef de l'État, avec le président Emmanuel Macron.
Le président Macron a lui-même créé la crise. C'est sans précédent dans la vie politique, parce que il a fait une année de rouleau compresseur. Nous avons résisté, s'il vous plaît, il faut s'en rendre compte, et nous avons été le grain de sable.
C'est Emmanuel Macron qui a provoqué le départ de Gérard Collomb.
Que voulez-vous que, bien sûr, par le fait que cet homme n'a pas d'assise sociale dans le pays, et que chargé comme il le fait, les retraités, les jeunes, les salariés, tout le monde à la fois, vous avez un terrain qui devient instable, et lui-même a été incapable de fédérer, de tracer une perspective.
Alors, Anne-Bénédicte Hoffner, pardon, le chef de l'État, avec cette longue séquence, ce remaniement qui se fait attendre, il donne du grain à moudre à l'opposition, comme on vient de l'entendre.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, ce qui m'intéressait, c'était la suite de ce que disait Muriel Pénicaud, c'est qu'elle disait, il faut aussi choisir un homme dans une équipe, ou elle parle d'un travail collectif, ou quelque chose comme ça. Et je trouvais que c'était peut-être le seul argument entendable dans le fait de prendre autant de temps, c'était que peut-être il y avait ce souci de prendre non pas seulement des personnes pour des équilibres politiques, etc., mais peut-être des gens qui étaient capables de former une équipe et de travailler ensemble.
Laurent Mauduit, j'en viens à vous, parce que dans votre livre que vous sortez qui s'intitule La Caste, vous nous expliquez... Je vais résumer, hein, parce que le livre est assez épais, mais je vais résumer que quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, quels que soient les ministres qui sont mis en place, qui viennent, par exemple comme Nicolas Hulot, eh bien l'administration, elle est tenue par toujours les mêmes hommes qui viennent de l'ENA, de l'Inspection Générale des Finances, et ce sont eux qui dictent le tempo, les textes de loi, et même qui s'en vont dans le privé après, c'est ça.
C'est plus profond que ça, parce que pendant 30 ans, on a vu une première chose, qui était l'OPA de ces hauts fonctionnaires, sur la vie des affaires. Hein. Vous regardez les banques ou les grandes distributions, ce ne sont que d'anciens hauts fonctionnaires qui, pantouflant, ont pris les commandes de ces groupes-là. Et ce qu'on a moins vu, ce qui est plus récent, c'est que après les pantouflages, il y a eu les rétro-pantouflages. Et donc, si vous regardez, qui est gouverneur de la Banque de France, quelqu'un qui vient de BNP Paribas, qui est à la Caisse des dépôts, c'est quelqu'un qui vient de Generali, voilà. Donc, il y a eu une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République.
Mais rassurez-moi, il reste toujours des hauts fonctionnaires.
Et donc, Macron est le symbole de ce mouvement-là.
Mais il reste toujours des hauts fonctionnaires de l'État qui ont la notion de l'État, République.
Certes, mais observez bien, ceux qui sont à l'avant-scène, ceux qui ont les postes de commande les plus importants, sont d'anciens inspecteurs des finances, qui ont été faire fortune dans le privé et qui maintenant tiennent les leviers les plus importants, dont Macron. Macron, inspecteur des finances, il passe chez Rothschild et il revient. Et donc, sa puissance, son pouvoir provient de d'une sorte de privatisation de la politique.
Le mot privatisation est particulièrement mal choisi, si vous permettez, parce que l'ENA, c'est une école d'État. Oui. Et ce qui est intéressant, justement, dans ce que vous décrivez, qui a été décrit en 1967, il y a plus de 50 ans, par Jean-Pierre Chevènement.
69, oui.
67, apparemment. Rappelez-vous son livre « L'énarchie, la bourgeoisie des mandarins ». Il disait exactement la même chose. Le problème en France, c'est d'une part l'endogamie des décideurs politiques et des cabinets. Et ça, on n'a jamais voulu s'y attaquer, mais on pourrait le faire, par exemple, en obligeant les gens qui veulent se faire élire à abandonner leur mandat, abandonner leur poste dans la fonction publique, ne plus pouvoir se mettre en réserve, ce qui est interdit pratiquement aux gens qui n'en sortent pas, qui n'ont pas un boulot assuré, de faire de la politique, d'une part. Puis d'autre part, et c'est encore plus important, en faisant en sorte que les contre-pouvoirs existent et les moyens de contrôle et d'évaluation. Je vous donne un exemple simple. À cause du phénomène que vous décrivez, qui est effectivement que tout le monde peu ou prou vient de l'ENA, quand un ministre a une idée de projet de loi, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à son administration de faire une étude d'impact, et comme c'est le ministre qui est le patron, l'étude d'impact, c'est voilà une idée qui est formidable. Donc, en l'absence d'organismes indépendants, on pourrait imaginer par exemple la Cour des comptes, qui est assez bien équipée pour ça, fasse elle une étude d'impact autonome, eh ben vous avez un système qui s'alimente lui-même. Et ça, c'est vraiment le gros problème.
Alors, on va poursuivre ce débat très intéressant sur la haute fonction publique. Tiens, sur l'ENA, parce qu'on a appris aujourd'hui en lisant Le Parisien que les comptes de l'ENA étaient dans le rouge. On va y revenir parce que vous en parlez dans votre livre. Mais avant cela, à 20h20, on fait un point sur l'essentiel de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Toujours pas d'accord ce soir autour du Brexit. C'est le négociateur européen Michel Barnier qui l'annonce. Il a passé la journée en tête-à-tête avec le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab. Il devait avancer sur les derniers points d'accroche, notamment la frontière Irlande-Irlande du Nord avant le sommet européen dans 3 jours et qui doit entériner cet accord. Un adolescent de 12 ans, battu à mort à coups de barre de fer, c'était hier soir au Lila, près de Paris, une bagarre entre bandes rivales. Selon les premiers éléments de l'enquête révélée par France Bleu Paris, une vingtaine de personnes seraient impliquées. 2 adolescents arrêtés sur place après la fuite de tous les autres ont été relâchés. C'était en fait des amis de la victime. Un élève de CE1 sur 2 a des problèmes de calcul mental. Le chiffre de Jean-Michel Blanquer, dans une interview à 20 minutes, le ministre de l'Éducation nationale, était interrogé sur les premiers résultats des évaluations lancées le 17 septembre. Cela justifie, selon lui, ces évaluations critiquées par les syndicats enseignants. Elles n'ont pas pour but de faire échouer les élèves, dit-il. Elles sont un levier pour leur réussite. Au Yémen, au moins 15 civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés, victimes d'une attaque menée contre des minibus dans la région du port d'Odeida. Les rebelles Houthis accusent la coalition militaire emmenée par l'Arabie Saoudite d'être à l'origine de cette attaque. Et puis en tennis, Caroline Garcia remporte pour la première fois depuis plus d'un an un tournoi WTA, on parle de tennis. Elle s'est imposée à Tianjin en Chine en 2-7, 7-6, 6-3. C'était face à la Tchèque Caroline Pliskova, pourtant 10 rangs devant elle au classement mondial.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Dans ces informés de France Info, on revient sur ce débat qui nous agite ce soir concernant la haute fonction publique de l'État. Dans votre livre, Laurent Mauduit, à la fin, je vous citais François Bayrou, vous reprenez les mots de François Bayrou, qui disait qu'il voulait en finir avec l'ENA car la réalité des citoyens est constamment niée. Faut en finir avec l'ENA ?
Oui, moi c'est la position que je défends et c'était aussi en 2007, quand il était candidat à la présidentielle, l'idée qu'avait avancé Bayrou, qui était en fait une vieille idée. Il y a un grand républicain qui s'est appelé Marc Bloch, qui, à l'été 40, engueule le Front populaire, qui à l'époque songe à créer l'ENA. Et Marc Bloch dit non, il faut laisser à l'université, dans le pluralisme de ses approches, le soin de former les élites publiques. En clair, si vous faites une seule école, ce sera l'école du conformisme. Et en fait, c'est ce qui est advenu à la libération. L'école, c'est devenu le moule de l'oligarchie, et c'est ce qu'on paye aujourd'hui.
Dès qu'on apprend aujourd'hui dans Le Parisien que l'ENA a des comptes dans le rouge.
Oui, il est mal géré. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple à donner pour les élèves qui y sont formés, qui d'ailleurs ne sont pas responsables de la gestion de l'établissement, mais il y aurait un déficit de 2,8 millions...
Presque 3 millions d'euros, voilà, sur un budget de 40 millions d'euros.
Voilà. Le président de l'ENA ou le responsable de l'ENA dit que ça va être résorbé dans les années à venir, que tout va aller bien, mais c'est vrai que c'est un peu ironique et paradoxal que ceux qui sont formés pour bien gérer le pays, ben leur école soit en déficit. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Laurent, parce que Marc Bloch, il fait le constat aussi dans un livre, L'étrange défaite, que l'élite d'avant-guerre n'a pas été une réussite non plus. Donc,
mais c'est bien à ça que je faisais allusion.
Et donc l'ENA a été créée aussi pour essayer de reconstruire le pays, et peut-être qu'elle n'y a pas totalement échoué, et que peut-être on pourrait continuer, parce qu'il y a deux choses. Dans votre livre, enfin de ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a le fait que les présidents s'entourent forcément d'énarques pour gouverner, et ce que vous dénoncez, c'est les allers-retours entre l'État et le privé qui reviennent ensuite à l'État. C'est un peu deux choses différentes.
Je ne dis pas ça. Je dis qu'en fait, la présidentielle, on voit disparaître le PS et les Républicains, et en fait, on voit arriver une génération de hauts fonctionnaires autour de Macron.
Et PS et les Républicains, ils sont gouvernés par des énarques. Hollande est un énarque, Wauquiez est un énarque. Ouais. C'est pas simplement une question.
Et donc là, d'un seul coup, le roi est nu. Ils apparaissent. C'est une sorte. C'est la
haute fonction publique. Autour de Sarkozy, il y avait des énarques. Autour de Hollande, il y avait des énarques. C'était la promotion Voltaire. Autour de Macron, il y a des énarques. Promotion Senghor.
Et vous expliquez que le mal, entre guillemets, selon vos mots, existe aussi depuis les années Mitterrand.
Ils existent même. Le système de consanguinité, vous remontez même au Second Empire, l'inspection des finances, déjà, aller vers le privé. Bon. Donc, il y a une tendance longue dans ces évolutions de consanguinité et d'aspiration vers les milieux de la finance, des inspecteurs des finances. La chose qui est très spectaculaire et qui est très récente, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le moins en retour, les rétro-pantouflages. Et c'est tellement nouveau que le code pénal ne prévoit rien. Le code pénal encadre les passages du public vers le privé, mais n'encadre pas du tout les retours. Et il y a un rétro-pantoufleur en chef, je l'ai dit, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est très symbolique.
Judith Vintraube.
Oui, on va parler des Républicains. Faute de prendre les vraies mesures pour lutter contre la consanguinité, c'est plutôt moins pire que des hauts fonctionnaires quittent parfois la haute fonction publique pour aller se frotter aux réalités économiques. Au moins, il y a ça.
Pourquoi moins pire, vous pensez au hasard? Vous pensez à Alexis Kohler, par exemple, le secrétaire général de l'Élysée, c'est moins pire.
Alors, je vais vous dire,
j'ai
un terrible défaut. Je pense que pour gouverner, qu'on soit ministre ou qu'on soit membre d'un cabinet, c'est mieux de connaître la réalité que d'être directement allé de son école de cadre.
Vous pensez qu'on apprend la réalité du pays chez Rothschild.
Mais on apprend,
Parce
que vous dénonciez le conformisme de la pensée chez l'ENA. Bah justement, le fait d'être peut-être passé par le privé, donc d'être dans une école de pensée qui est libérale.
Non, mais dites bien, c'est pas dans le privé. C'est à la direction de Rothschild, à la direction d'HSBC, à la direction générale.
C'est une expérience différente que d'être à la Cour des comptes, puis après dans un cabinet ministériel, de revenir à la Cour des comptes, etc.
Vous pensez que pour bien diriger l'État, il faut venir des cercles dominants de la finance? C'est pas mon sentiment. Je pense qu'il doit y avoir une muraille de Chine entre l'État, l'intérêt général d'un côté, et de l'autre, les appétits privés. Or, c'est ce qu'on vit avec Emmanuel Macron, c'est l'effondrement de cette muraille de Chine, et c'est tellement spectaculaire que même au sommet de l'État, je faisais allusion tout à l'heure à Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, visé par une enquête préliminaire à cause des révélations de Mediapart, je l'évoque dans le livre, mais il est à la fois il est haut fonctionnaire et en même temps il défend les intérêts du groupe familial. On est dans un système.
Pardon. Alors, est-ce que vous voulez dire que aucune personne ayant travaillé dans un groupe privé ne devrait se retrouver aux responsabilités?
Non, je pense que ceci.
C'est ça que vous voulez dire?
Je pense que ceci devrait être encadré, ce qui n'est pas le cas. Là, du coup, il n'y a aucune règle, et donc du coup, c'est évident.
Pourquoi est-ce que le code pénal contre le pantouflage.
Pardon.
Il y a des règles contre
lesquelles? Lesquelles? Quelles sont celles qui conduisent à la situation avec Alexis Kohler, qui est secrétaire général de l'Élysée, le principal collaborateur?
On va être obligé de refermer ce débat parce que le temps presse. Pardon. je renvoie à votre livre pour en savoir plus, à
ce
vos articles.
Ce sont les règles qui conduisent précisément à ces ennuis judiciaires. S'il n'y avait pas de règles, il n'aurait pas d'ennuis. Hein.
Et puis voilà. Et puis, on va parler de la politique. On va parler des Républicains dans un instant. Laurent Wauquiez qui a fait procéder en tous les cas aux représentants, au renouvellement des présidents de fédération chez les Républicains. On va parler également avec vous, Anne Bénique-Hoffner, de votre enquête dans une cité d'Écquevilly en région parisienne pour savoir quelle est la présence de l'islam salafiste aujourd'hui. Restez avec nous sur France Info tout de suite. La météo, l'info, on se retrouve dans 3 minutes. On fait un point route à présent, PC Mobilité de Radio France, avec des problèmes de circulation comme tous les dimanches soirs, Laurent Borde.
Oui, avec un accident qui s'est produit sur l'autoroute A4 entre Paris et Strasbourg, en direction de Strasbourg, dans l'est de la France, à hauteur d'Audainville, c'est dans la Meuse. Une voie de circulation est neutralisée. Et puis en région parisienne, il y a également un accident à l'est de Paris, sur la 86 intérieure à hauteur du Perreux. En conséquence, vous mettez 20 minutes pour aller de Rosny-sous-Bois à Nogent-sur-Marne.
Filaire intime, le dimanche 21 octobre à 16h, dans l'intimité de l'auditorium de Radio France, avec le pianiste Nicolas Sojiz et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, pour une ode à la musique anglaise, des œuvres de Vaughan Williams et Elgar. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
On fait un point sur la carte du ciel avec vous, Jean-Michel Goulinski, à Météo France.
Fortes précipitations et parfois orages accompagnés de puissantes rafales sur les 6 départements situés autour du Golfe du Lion, placés en vigilance orange. Les phénomènes les plus forts sont prévus entre la nuit prochaine et demain, fin de la matinée. Ce lundi après-midi, le temps instable et orageux, mais nettement atténué, va gagner vers la Provence. Sur le reste du pays, les nuages seront moins nombreux à l'est, avec du bleu ce lundi sur la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Des éclaircies sur la Bourgogne, Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre et en Rhône-Alpes, et une ambiance plus maussade près de la Manche et de l'océan, avec une amélioration l'après-midi de la Bretagne au Hauts-de-France. Avec 16 à 20 degrés l'après-midi, les températures du proche Atlantique seront en baisse. En revanche, plus à l'est, elles vont rester confortables avec 23 à Marseille, 24 à Langres, Nice et Lille, 25 à Paris, Nancy, Grenoble et Ajaccio.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Vous écoutez France Info, soyez les bienvenus, il est 20h30. L'info Jules de Kiss.
Un adolescent de 12 ans est mort. Aujourd'hui, il a reçu des coups de barre de fer dans une bagarre entre bandes rivales. C'était hier soir. Cela s'est passé au Lila, en Seine-Saint-Denis. Retour sur les faits avec Philippe Bourry.
Il est 18h50 hier quand la bagarre a éclaté. Deux bandes s'affrontent, l'une des Lilas, l'autre de Bagnolet, deux communes limitrophes. Une vingtaine de jeunes, armés de barres de fer et de bâtons, se font face dans une rue du centre-ville, à quelques pas du commissariat de police. À l'arrivée des forces de l'ordre, les deux bandes se dispersent, la plupart des jeunes prennent la fuite. Les policiers découvrent alors la victime, un garçon de 12 ans, frappé à coups de barres de fer par plusieurs individus. Grièvement blessé, notamment au niveau des jambes, le jeune a été transporté à l'hôpital où il a succombé aujourd'hui à ses blessures. Deux adolescents ont été interpellés hier, mais ont été rapidement relâchés. Selon nos informations, il s'agit de deux amis de la victime. L'enquête en flagrance a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
Précision de Philippe Bourry sur France Info. Un Technival endeuillé en Loire-Atlantique. Un garçon de 17 ans est mort à l'aube à Théier dans un rassemblement d'amateurs de musique techno autorisé par la préfecture. Le jeune homme en insuffisance respiratoire a été découvert par des festivaliers. Présente sur place, la sécurité civile n'a rien pu faire. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours pour déterminer les raisons de la mort du jeune homme. C'est un revers pour Angela Merkel. La chancelière allemande voit ses alliés conservateurs subir un très gros camouflet électoral en Bavière. Ils obtiennent un peu plus de 35% des voix selon les premières estimations. Ils arrivent en tête mais perdent leur majorité absolue et c'est leur score le plus bas depuis plus de 50 ans. Les écologistes arrivent deuxième, suivis par l'AFD à 11% environ. La formation d'extrême droite qui fait donc son entrée, et cela aussi c'est historique, au Parlement régional national bavarois. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni choisissent d'unir leurs voix pour réagir à l'affaire Khashoggi, la disparition d'un journaliste saoudien dissident. La Turquie assure que Riyad a commandé cet assassinat. Dans un communiqué commun publié par le Quai d'Orsay, les trois pays demandent que toute la lumière soit faite. Ils réclament une enquête crédible, mais pas de menace de sanctions dans ce texte, comme a pu en prononcer par exemple le président américain Donald Trump. Des menaces d'ailleurs balayées aujourd'hui par le régime saoudien qui promet des représailles si elles sont mises à exécution. 2 ans après la défaite militaire du groupe État islamique chassé de son bastion de Sirte en Libye par les forces gouvernementales, les autorités libyennes viennent de découvrir une fosse commune tout près de la ville. 110 corps au total qui doivent maintenant être identifiés. Même sans base arrière, des membres de Daesh restent actifs dans cette région. En rugby, après une journée parfaite en Coupe d'Europe pour les clubs français hier, 3 victoires en 3 matchs, une journée à oublier aujourd'hui. Castres, Lyon, Toulon ont tous 3 perdu respectivement contre Gloucester, Cardiff et Newcastle. France Info, il est 20h33, on retrouve Pierre Neveu et ses invités.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, la deuxième partie avec Anne-Bénédicte Hoffner de notre partenaire, le quotidien La Croix, avec Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart, avec Judith Vintraube, journaliste politique au Figaro Magazine, et avec Daïko Doui de France Info, télévision, Canal 27 de la TNT. On parle à présent de la politique des Républicains avec son président, Laurent Wauquiez, qui a mené à bien hier le renouvellement des 104 présidents de fédération, non sans mal. Laurent Wauquiez qui s'installe et qui installe ses relais. Est-ce que c'est un renouvellement générationnel, tiens, Judith Vintraube, puisque certains noms disparaissent, des fédérations, Dominique Bussereau, Christian Estrosi, Alain Juppé.
Oui, enfin, Dominique Bussereau avait quitté les Républicains. Alain Juppé a précisé qu'il n'avait pas payé sa cotisation, voilà. Donc il n'est plus aux Républicains. C'est un peu un renouvellement forcé. C'est quand même beaucoup de départs dans ces générations-là. Il n'y a pas tellement de justement à cause de ces départs ou à cause des gens comme Valérie Pécresse, dont on se demande parfois où elle est un peu.
Alors,
dedans,
est-ce qu'elle est isolée maintenant?
Elle n'est pas isolée, elle a toujours des soutiens. Il ne faudrait pas que les soutiens, je pense notamment à Dominique Bussereau, se laissent charmer par les sirènes d'Emmanuel Macron et entre gouvernement, puisque s'agissant de Bussereau, il en est question. Elle a à peu près totalement abandonné toute idée de conquête des Républicains par l'intérieur. D'ailleurs, elle ne s'était pas présentée contre Laurent Wauquiez. Donc on ne peut pas dire que ce soit compliqué pour Wauquiez à l'intérieur. Ce qui est compliqué, c'est que malgré les ennuis d'Emmanuel Macron, malgré la perte de confiance de l'exécutif, les Républicains n'en profitent pas du tout. La droite n'a aucun créneau, on n'entend pas sa voix, et c'est extrêmement problématique pour lui.
Juste une information par rapport au soutien de Valérie Pécresse. La Fédération de Paris, il y avait un deuxième tour dont les résultats ont été connus ce soir. Et c'est Agnès Evren qui a gagné, vous la connaissez pas. Mais elle est membre du club de Valérie Pécresse, ouais. Libre. Mais elle a fait campagne quand même pas contre Laurent Wauquiez, pour faire plaisir à tout le monde. Mais quand même, elle a un soutien. Paris, à une époque, c'était la plus grosse fédération à l'air. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais il y a les Alpes-Maritimes aussi. Et les Alpes-Maritimes, d'ailleurs, il y a une contestation. Parce que là, c'est Éric Ciotti.
Christian Estrosi, ouais, parle d'irrégularité.
Oui, contre Éric Ciotti. Il dit que c'est une fraude massive et il en appelle éventuellement à la haute autorité. Alors, donc ça recommence, on a l'impression, c'est la guerre Copé-Fillon qui avait concerné les Alpes-Maritimes.
Alors justement, Anne-Bénédicte Hoffner, en parlant de tripatouillage, il paraît qu'il y aurait eu également des tripatouillages pour la présidence des jeunes républicains.
C'est vrai que c'est un peu l'angle.
Ça circule sur les réseaux sociaux là en ce moment.
ce que j'ai regardé, parce que j'ai vu que Laurent Wauquiez se félicitait d'un week-end électoral rassembleur, etc. Et j'ai regardé un peu ce qui s'était passé du côté des jeunes républicains et j'ai trouvé ça à la fois dérisoire et fascinant. Dérisoire parce que c'est minuscule.
Le vainqueur, qui est un ancien assistant parlementaire de Laurent Wauquiez, est accusé via des conversations qui ont été enregistrées.
Ouais, il y a vraiment un audio. Ouais, il a reconnu que c'était ses propos à lui. Et il parle à un militant et il lui.
Il essaye de se procurer
des codes pour faire voter. Et il dit donc le militant lui dit oui, mais ça va se voir. Il dit justement, il faut le faire le plus vite possible. Donc en regardant le parcours de ce très jeune quand même, 25 ans,
Pour les jeunes républicains, il faut
Oui, pour être un jeune républicain, il faut être très jeune. Et donc, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il est dit quelque part qu'il fait une thèse sur la rétention de sûreté avec Alain Bauer, donc j'imagine en droit pénal. Et je me dis, quand même, c'est une drôle de manière de commencer dans la vie politique.
Laurent Maudu, détripatouillage dans les élections, dans les partis politiques, on va pas dire qu'il y en a eu seulement chez les Républicains, on peut rappeler aussi le Parti Socialiste,
certes,
le Congrès de Reims, Martine Aubry.
Mais on vit quelque chose de totalement...
C'est Ségolène Royal.
Ils vivent quelque chose de totalement crépusculaire. Ils sont d'abord assommés... comme le Parti Socialiste depuis la dernière élection présidentielle. Du coup, c'est un parti en miettes, dont celui qui ramasse les miettes, Wauquiez, va vers la droite radicale, ou essaie de mimer le Front National. Et si vous parlez des deux, là, qui se sont, des deux jeunes, si on peut dire ça.
Mais si on est jeune à 25
ans,
Laurent,
disputés,
Laurent, Laurent, on est jeune à 25 ans.
Non, pour Laurent Meduit, on n'est pas jeune si on n'est pas de gauche.
On est jeune à 25 ans.
Quel sectarisme. Bon, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais
n'oublions pas. Aussi à droite dans ce débat.
N'oublions pas que ce sont des gens, tous les deux qui se sont disputés, les jeunes, les républicains, de l'extrême droite. Il y en a un qui sort du Front National et un autre qui a dit des abominations. Les enfants nés de la PMA ne devraient même pas exister.
Ça, c'est celui qui a gagné.
Ouais, c'est celui qui a gagné.
Mais il y avait un troisième candidat qui, lui, était pour l'union de la droite avec l'extrême droite, qui n'a pas eu le droit, lui, de participer à l'élection quand même.
Ouais, donc le plus proche de Wauquiez, celui qui gagne, défend des thèses qui sont des thèses... d'extrême droite. Voilà, donc c'est droite extrême contre extrême droite. Voilà, c'était ça, ce panier de crabes ce week-end.
Non, il s'est expliqué ses déclarations sur la PMA, il les a regrettées.
Mais il y en a d'autres, hein, vous les connaissez aussi bien que moi.
Non, ce qui est vrai, c'est que comme disait Daïk, il y avait un débat qui aurait pu être soulevé, qui était, faut-il l'union de toutes les droites, jusqu'au Rassemblement National, ou pas. Éric Tegner, qui voulait le porter, n'a pas pu avoir ses parrainages. On ne l'a pas empêché de se présenter. Il n'a pas pu avoir ses parrainages.
On n'a pas aidé à se présenter. Voilà.
Mais ce qui montre, c'est que Laurent Wauquiez ne veut pas que cette question soit soulevée à nouveau.
Déjà, il a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, bien sûr. Et il l'a dit avec fermeté. De toute façon, tous les adversaires des Républicains rêvent de voir Laurent Wauquiez faillir sur ce point-là, montrer une faiblesse vis-à-vis de l'appareil Rassemblement National ou d'ailleurs vis-à-vis de Dupont-Aignan. Il n'y en a aucune. Et ça les embête beaucoup. Donc, ils se rattrapent en disant « Mais c'est pas grave, ils tiennent un discours d'extrême droite. » Je trouve qu'il y a quand même énormément de points de différence entre le discours que tient aujourd'hui le Rassemblement National et le discours de Wauquiez.
Allez, vous savez qu'on va parler de la laïcité, de la place de l'islam dans la cité, de l'islam salafiste. Au travers votre enquête, vous allez nous expliquer votre enquête Anne-Bénédicte Hoffner, apparaître demain dans le journal La Croix, le journal papier, mais aussi sur le site internet La Croix, notre partenaire de ces informés le dimanche soir. À 20h40, on fait un point sur l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Des orages violents et de fortes pluies attendues ces prochaines heures sur 6 départements du Sud, placés en vigilance orange par Météo France. Ça pourrait tourner à l'inondation par endroit. La carte est à retrouver sur franceinfo.fr. Dans le Limousin, ce sont les rafales de vent qui ont fait des dégâts cet après-midi. Jusqu'à un millier de foyers privés d'électricité. Enedis prévoit un retour à la normale au plus tard demain matin. La pollution au carburant au large du Cap Corse est presque totalement épongée selon la préfecture. Environ 600 mètres cubes s'étaient déversés en haute mer après la collision de deux navires. C'était il y a une semaine, il reste moins de 2% du carburant à récupérer. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni demandent à ce que toute la lumière soit faite sur la disparition à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, communiqué cet après-midi du Quai d'Orsay. Le président américain Donald Trump a promis à Riyad un châtiment sévère si les soupçons d'assassinat du journaliste étaient avérés. Des menaces rejetées par l'Arabie saoudite qui n'exclut pas des représailles en cas de sanctions. C'est une première depuis 2002. Le gouvernement israélien autorise la construction de 31 logements dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, une zone décrite comme étant sous tension permanente. Les Palestiniens voyant l'installation d'Israéliens au cœur de cette ville comme une provocation. Et puis Novak Djokovic, un peu plus proche de la place de numéro 1 mondial qu'il convoite ouvertement après sa victoire cet après-midi au Masters 1000 de Shanghai, on parle de tennis. Il s'est imposé en finale en 2-7, 6-3, 6-4 face au Croate Borna Koric.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors, je profite de votre présence sur ce plateau des informés, Anne-Bénédicte Hoffner, pour évoquer votre travail de reporter au journal La Croix avec Flore Thomasset. C'est bien cela, vous signez un reportage en immersion dans la cité du Parc à Écquevilly, c'est dans les Yvelines, en proche région parisienne. Cité qui était connue pour ses trafics de drogue, cité qui a été connue il y a une dizaine d'années pour des violences, des nuits d'émeutes. Et vous, vous êtes immergé pour comprendre comment une partie de la population avait pu adhérer à un discours salafiste tenu il y a quelques années par un enfant de la cité.
Exactement. En fait, on s'est dit qu'on voulait pouvoir essayer de comprendre un peu mieux cet islam salafiste, non pas seulement en faisant parler des experts qui en plus sont souvent des politologues ou des sociologues, voilà, mais vraiment en essayant de rencontrer alors les gens qui le pratiquent et puis surtout ceux qui vivent autour. Donc on a choisi cette petite ville d'Écquevilly, qui est vraiment une petite ville résidentielle des Yvelines, tout ce qu'il y a de plus classique, et avec un quartier effectivement de HLM, et dans lequel un imam salafiste a commencé à prêcher, mais il y a longtemps, hein, il y a presque 8 ans, 7-8 ans progressivement. Et donc on y est allé là parce que la mosquée a été fermée pendant l'état d'urgence, donc il y avait eu toute une enquête qui avait été faite, les propos dangereux avaient été bien
consignés,
voilà. Et puis les renseignements avaient aussi pris en compte l'emprise de cet imam sur le quartier. Et donc on s'était dit, bon, bah, on va aller là, à la fois pour voir ce qui se passait, ce qu'en disent les habitants, et puis aussi avec la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à cet islam salafiste. Et puisque la mosquée avait été fermée, on s'est dit, bon, sans doute qu'il doit y avoir une réaction des pouvoirs publics.
Alors, 2 ans après. J'ai lu dans votre reportage une chape de plomb, une ambiance étouffante. C'est ce qui ressort, c'est ce que vous avez senti?
Alors ouais, c'est ça qui est quand même troublant. En y allant, même 2 ans après, la première chose qui nous a frappé, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Mais vraiment, personne. Il n'y a personne dans les rues de la cité. Donc, quelques mères de famille à la sortie de l'école, mais personne qui discute. Les femmes ne discutent pas, ne s'arrêtent pas pour discuter. Au square, il n'y a vraiment quasiment personne. Vraiment très, très, très peu de monde. Des volets plutôt fermés, et voilà. Et puis, l'autre chose qu'on a constatée, c'est que les habitants de la cité ont beaucoup de mal à nous parler. Et même ceux qui habitaient dans la cité et qui ont déménagé vers la zone pavillonnaire, parce que ils en avaient assez de la cité. Même eux, ils hésitent à nous parler. Alors, d'une part, ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est qu'ils en ont assez de la stigmatisation de leur ville, la médiatisation autour de la fermeture de la mosquée et tout ça, c'était dur pour eux. Mais il y a aussi vraiment la crainte de mesures de rétorsion et surtout d'une espèce de mise à l'écart. On nous parle beaucoup d'une mise à l'écart. Donc, par exemple, si on parle... Alors, la maire d'Écquevilly est très mobilisée parce que il se trouve qu'une nouvelle mosquée est en construction, donc elle a qu'une peur, c'est que ça rouvre avec la même équipe et le même genre de discours. Et parler à la maire ou parler à des journalistes peut signifier une mise au ban, être considérée comme une cinquième colonne dans le quartier. Donc, même 2 ans après, en fait, la mosquée a été fermée. Donc les gens ne prient plus sur place, ils vont prier ailleurs, au Mureau, etc. Mais l'imam n'a pas été mis en cause personnellement parce que c'est difficile en fait de trouver les moyens de le sanctionner pénalement pour discours d'incitation à la haine, etc. C'est pas si facile que ça. L'association n'a pas été dissoute. Donc voilà, il y a un habitant qui nous a dit on a coupé la tête du serpent, mais le serpent bouge encore. Donc il continue à venir, il continue à poster ses prêches sur Internet. Enfin, il a un peu moins d'influence, mais il en garde quand même.
Précise que c'est un travail d'immersion de 3 semaines. Vous êtes resté longtemps pour observer ce qui se passait dans cette
cité. Essayer de voir le plus de gens concernés possible.
Alors le mois dernier, il y a eu un rapport de l'Institut Montaigne pour un Islam de France, rapport qui s'alarme de la prolifération des thèses islamistes sur Internet. Vous l'avez ressenti en discutant également ?
Ouais, alors enfin j'en ai parlé avec l'auteur Hakim El Karoui en lui disant cette présence là du discours salafi sur les réseaux sociaux, elle est assez bien connue et voilà, enfin il suffit de faire une recherche par mot clé sur Google et bing, on sait qu'on va tomber on a 9 chances sur 10 de tomber sur un site salafiste. Là, le cran d'après, c'était de voir comment est-ce que ces discours qui salafistes qui pullulent sur internet se répercutent chez les musulmans lambda. Donc là, on est allé vraiment dans une mosquée ouvertement salafiste avec un imam. Le problème, c'est qu'il va jamais dire « je suis salafiste », comme avec toute l'état d'urgence, etc. Il le dira pas. Mais on peut repérer le discours, alors il y en a quelques-uns dans les fidèles, mais ce qu'on peut repérer pour décrire ce que c'est qu'un discours salafiste, c'est un discours qui... alors déjà, avec que des références à l'Arabie Saoudite, aux prédicateurs d'Arabie Saoudite, et un discours qui sépare... qui vraiment oppose les musulmans aux Français, aux Juifs, aux chrétiens, à l'Occident, voilà. Alors, et donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a constaté, effectivement.
Je voudrais vous faire écouter les propos de Muriel Pénicaud ce matin, mais aussi François Bayrou, du président du Modem, qui se sont bien expliqués sur la place de la religion dans notre société et la place de la laïcité, justement. Écoutez.
Moi, j'ai une définition de la laïcité. La laïcité, c'est la loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. Si l'on réfléchit à cette formulation du double impératif, la conscience est protégée.
L'islam a sa place en France. Après l'islamisme, le fondamentalisme, qui appelle à la haine ou au non-respect des règles de la République, ça c'est autre chose. La République primera toujours.
Judith Vintraube, la République primera toujours et François
Bayrou.
Oui, on
se rappelle que quand il a démissionné, au moment de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe, ministre de l'Intérieur à titre intérimaire, Gérard Collomb a parlé de ces quartiers qui sont aux mains des islamistes et des narcotrafiquants. Et là, on s'est dit, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'Intérieur parce que c'était un bon endroit pour lutter contre la prolifération de l'islamisme. Ce que vous, votre reportage que vous racontez, ce que raconte Gérard Collomb, c'est déjà ce que disait Bensoussan dans Les Territoires perdus de la République, paru en 2002. Ensuite, il y a eu le rapport Aubin en 2004 qui disait exactement la même chose. Une note interne du renseignement intérieur, une note du renseignement intérieur qui dit que dans les écoles, l'islam radical se répand à tel point que ça en rend l'enseignement compliqué, voire impossible, par exemple pour la Shoah. Donc ce sont des phénomènes archi connus contre lesquels on dit qu'on est démunis, mais il y a très peu d'expulsions de prédicateurs.
Mais là, il est français. Hein.
Salafiste.
Il est français. Il est né sur place.
Il est né sur place. Il n'a pas la double nationalité. Ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien que les doubles nationaux soient expulsés quand ils prêchent le radicalisme.
Je voudrais préciser aussi que lors du congrès de Versailles, au mois de juillet, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il voulait structurer l'islam de France, mais il n'a pas encore défini les règles. On attend, un discours, un document,
un contrat. Quand vous décrivez le salafisme et cette volonté de séparation, il y a quand même un critère simple pour savoir quelles religions, quelles idéologies ont droit de citer en France et est-ce qu'elles respectent ou non les lois de la République. Quand une idéologie vous dit clairement « moi je considère que je n'ai pas à respecter les lois de la République », normalement c'est interdiction systématique. Il y a une loi sur les dérives sectaires, Manuel Valls l'avait proposé, qui pourrait être employée pour réprimer le salafisme, ou en tout cas l'interdire sur le territoire national, puisqu'il s'agit de ça. Tout le monde a dit non, c'est impossible.
Alors là, oui, concrètement, je peux vous dire vraiment, après 3
semaines... On n'interdit pas les idées.
Impossible d'interdire le salafisme.
Oui, vous me le dites, mais je ne suis pas obligée de vous croire sur parole.
C'est vrai. Si je peux dire d'un mot, rapidement. Moi, ça fait 25 ans que je connais Equevilly. Si je peux me permettre, l'image que j'en ai ne correspond pas du tout à ce que vous dites. Il y a un aspect, c'est une bourgade où il y a 3 parties, les ruraux, la zone pavillonnaire des anciens ouvriers qui travaillaient dans l'automobile, et puis des HLM avec beaucoup de pauvres et d'immigration. Je vous écoute, j'y étais encore ce matin, j'y ai passé 2 heures. C'est en dehors de la perception que j'en ai, donc...
On va poursuivre ce débat dans Les Informés dans un instant. Avant cela, on fait un nouveau tour de l'info à 21h, à 20h51 avec vous, Emmanuel Grabet.
Les conservateurs de la CSU sortent en tête des élections régionales en Bavière, mais ils subissent une déroute historique. À peine 35% des voix, c'est un plus bas depuis 1950. Ils perdent la majorité absolue. Ça s'était produit une seule fois en près de 60 ans. La CSU, alliée au niveau fédéral à Angela Merkel, comme les sociaux-démocrates qui sont eux totalement balayés, à peine 10% des voix. Les Verts, en revanche, arrivent en deuxième position avec deux fois plus de suffrages qu'aux dernières élections et l'extrême droite de l'AFD fait son entrée au Parlement régional. Une enquête ouverte pour homicide involontaire aggravé en Haute-Savoie après la mort d'un Britannique de 34 ans hier. Un accident de chasse, il a été touché par une balle alors qu'il descendait une piste en VTT. L'auteur du coup de feu, un chasseur de 22 ans, n'a toujours pas été entendu par les enquêteurs. Il a dû être hospitalisé en état de choc. Un compteur électrique Linky mis en cause dans l'incident d'un pavillon, c'était à Chalette-sur-Loing dans le Loiret. L'occupant de la maison a entendu le compteur exploser et prendre feu après une coupure d'électricité. Le couple a réussi à sortir indemne du pavillon, légèrement intoxiqué par les fumées. Et puis 60 000 personnes rassemblées ce matin place Saint-Pierre, chiffre livré par le Vatican. Les fidèles s'étaient rassemblés pour assister à la canonisation par le pape François de 7 bienheureux, notamment le pape Paul VI et l'archevêque de Salvador, Oscar Romero, un défenseur des plus démunis assassiné par l'extrême droite pendant la guerre civile salvadorienne.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Avant de vous donner une carte blanche sur l'actualité d'Aïe Kodoui sur ce sujet concernant l'islam salafiste, on rappelle que le chef de l'État a organisé des assises territoriales de l'islam. On attend les conclusions. Le chef de l'État a souhaité un cadre rénové, une concorde retrouvée.
Voilà, mais on rappelle que c'est très compliqué de structurer l'islam de France, parce que l'islam, c'est pas un culte centralisé où il y a un grand chef qui dit ce qu'il faut penser. Il y a plusieurs écoles, et est-ce que c'est à l'État de se mêler, de savoir quelle école privilégier ou pas, le salafisme ou d'autres? Et puis il faut savoir qu'il y a aussi les origines des imams ou des musulmans qui vivent en France. Il y a ceux qui viennent d'Algérie, ceux qui viennent du Maroc ou de Tunisie, et il y a des compétitions, des rivalités entre eux, entre les villes, Lyon, Paris. On sait que Monsieur Collomb était plutôt, normalement, et c'est tout à fait logique, en lien avec le responsable du culte musulman à Lyon, qui développait une certaine tendance, donc qui voulait avoir pouvoir dans l'organisation du culte. Donc c'est très compliqué d'organiser ce culte-là, parce que il faut faire des compromis entre les diverses écoles, les diverses origines géographiques et territoires en France.
Alors, pour vous faire une idée, on va renvoyer à la lecture de votre enquête immersive, trois semaines dans cette cité, la cité du parc.
Et je voulais juste préciser que justement, c'est ça toute la difficulté, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément, qui n'est pas visible, c'est pas des atteintes visibles forcément aux lois de la République, et c'est ça qui fait toute la complexité de ce sujet et la difficulté de le combattre.
Alors, dimanche, on termine sur une carte blanche d'actualité. Judith Vintraube, votre coup de projecteur.
Vous avez parlé tout à l'heure de François Hollande qui regrettait de s'être présenté comme un président normal, donc il nous parlait de lui, comme d'habitude, en parlant quand même un peu d'Emmanuel Macron, puisque c'était un missile dirigé contre Macron. Dans un tout autre registre, il y a une biographie de Valéry Giscard d'Estaing qui vient de paraître, écrite par Éric Roussel, où Valéry Giscard d'Estaing regrette sa politique de regroupement familial qui a lancé en France une immigration massive. Il dit que c'était une idée juste et généreuse, donc il ne regrette pas l'idée, mais qu'elle a été mal appliquée, qu'il aurait dû faire beaucoup plus attention à son application, mieux vaut tard que jamais.
Laurent Mauduit, votre regard sur l'actualité?
Moi, c'est à rebours. Mon zoom, ce sera sur le manifeste pour l'accueil des migrants qui a été lancé par Mediapart,
Politis et Regard,
dont l'ambition est de... On est tellement dans une musique du bouc émissaire. Voilà, c'est les trois journaux ont voulu, avec donc beaucoup d'intellectuels d'abord et ensuite beaucoup de politiques, rappeler que la France, c'est le pays... de la Déclaration des droits de l'homme, voilà, et donc faire entendre une autre musique, et la pétition a énormément de succès.
Anne-Bénédicte Hoffner, La Croix, votre regard sur l'actualité ce dimanche soir.
Alors moi, c'était ce qui vient d'être dit sur la canonisation. Donc il y en avait plusieurs ce
aujourd'hui,
week-end, mais celle de Paul VI.
Paul VI, oui.
Et cette question, est-ce qu'il faut canoniser les papes? Est-ce que vraiment tous les papes ont vocation à être saints? Oui, ils ont vocation à être saints, mais est-ce que l'Église doit les reconnaître comme saints? Est-ce que on en est au quatrième. Est-ce que ça veut dire qu'on va canoniser tous les saints? Qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un qu'on canonise pas? Qu'est-ce qu'on se dira ou qu'est-ce qu'on pensera de lui? Et puis voilà, je trouve que cette question est importante à un moment où le pape nous demande de réfléchir à notre culture cléricale et à notre rapport au clerc.
Dave Codouy, votre carte blanche de l'actu ce soir?
C'est Johnny Hallyday. On parle beaucoup de lui depuis un an, depuis son décès. On va peut-être enfin l'entendre chanter à nouveau, puisque
vendredi. Parce qu'on parle aussi de sa famille, hein.
Voilà. Vendredi, c'est la sortie de son disque posthume. Il y a une conférence de presse qui va le présenter demain. Donc, on parle beaucoup de Johnny Hallyday, de son héritage, de ses enfants. Je suis pas un grand fan, hein, mais on va pouvoir l'entendre chanter à nouveau. Et après tout, c'est ce qu'il était, un grand chanteur. Donc, voilà. Il va revivre un petit peu à partir de vendredi.
On va en entendre parler beaucoup, j'ai l'impression. Merci à vous. Ces informés de France Info se terminent. Demain matin, notez notre rendez-vous le 8h30 politique avec Marc Fauvel et Renaud Dely. Invité Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Je remercie nos invités ce soir. Judith Vintraube, journaliste politique au Figaro Magazine. Je remercie à vos côtés Dave Codouy, France Télévisions. On vous retrouve bien sûr sur France Info Télé, Canal 27 de la TNT. Je remercie Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart. Et puis je renvoie à votre livre La Caste. Enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir, on en a parlé. Puis je remercie également notre partenaire de la Croix, Anne-Bénédicte Hoffner. Je renvoie sur votre enquête, on en a parlé, que vous co-signez. Vivre près d'une mosquée salafiste, apparaître demain en version papier, également en version numérique. À la réalisation ce soir, Nicolas Andreu, à l'édition Martin Bartoletti. Demain soir, les informés, 20h, 21h, avec Jean-François Akeli. Restez avec nous. Tout de suite, la météo, l'info. Et puis, on reste en contact, bien sûr, comme d'habitude, sur franceinfo.fr. Bonne soirée.